tous. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Nous accueillons Marie Bergström et Emmanuel Santelli, que je remercie d'être venus. Marie Bergström, vous êtes l'auteur des Nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique, donc, qui est votre premier ouvrage. Vous êtes sociologue chargé de recherche à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, et vous avez réalisé en 2014 votre thèse qui s'intitule « Au bonheur des rencontres, sexualité, classe et rapport de genre dans la production et l'usage des sites de rencontres en France ». Thèse sous la direction de Michel Bozon, lui-même auteur avec Françoise Errand de « La formation du couple ». Vous êtes sociologue de la sexualité et de la formation du couple, mais aussi des pratiques numériques, que vous analyserez dans votre ouvrage. Nous accueillons et remercions également Emmanuel Santelli, sociologue au centre Max Weber, dont la recherche est marquée par deux grandes idées, deux grands thèmes. Tout d'abord, Emmanuel Santelli a travaillé sur les descendants d'immigrés. Son HDR porte sur les parcours personnels des descendants d'immigrés. Et elle s'est ensuite intéressée plus particulièrement au couple et à l'intime et à la vie privée. Son outil de prédilection est donc l'analyse de discours. Je laisse Solène présenter l'ouvrage.
Aujourd'hui, c'est 2h30 pour être consacrée à cet ouvrage qui s'appelle donc, ça s'intitule Les Nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique, qui s'inscrit donc dans une étude de la formation du couple, de la famille et de l'intime, et qui est renouvelée par cette angle de vue qui est le site de rencontre et le numérique. Cette étude s'inscrit également dans les études de genre pour véritablement voir comment est-ce que dans le cadre de ces sites de rencontre, comment est-ce qu'on est confronté à ces sites de rencontre selon notre genre et notre milieu social. Et donc je vais laisser la parole à Marie Bergström pour nous présenter à la fois son parcours mais également son travail dans cet ouvrage.
Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs pour l'invitation et merci beaucoup d'être venus écouter et surtout échanger. Donc j'espère qu'on aura le temps de discuter. Donc, et merci aussi à toi, Emmanuel, de vouloir discuter avec moi sur ce travail. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Et effectivement, j'aimerais juste un petit mot avant de présenter... le livre, en fait, de revenir un peu sur cette recherche. Donc, effectivement, c'est une recherche sur les usages des sites et applications de rencontres. C'était effectivement mon sujet de thèse. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai continué après. Donc, juste un petit mot d'abord sur cette recherche qui a donné lieu au livre. Et ensuite, en deuxième point, je pensais donc revenir sur la thèse principale de l'ouvrage, qui est celle d'une privatisation des rencontres. Donc, je vais revenir sur ce que ça veut dire et les implications que ça a. Et puis, en troisième point, un petit focus. Voilà, c'est difficile à présenter un ouvrage parce que souvent, il y a différentes entrées, différents angles. Mais de faire un petit point sur, à la fin sur la question de la sexualité, notamment sur les rapports de genre. Qu'est-ce que les sites et les applications peuvent nous dire sur les évolutions, mais aussi les permanences dans les inégalités entre hommes et femmes et les rapports sociaux de sexe, et notamment les inégalités en matière de sexualité. Donc pour commencer, un petit mot donc, sur cette recherche, qui est en fait une recherche de long terme, parce que j'ai commencé en 2007 et ça a commencé comme un mémoire, un M2. Donc, c'était un travail donc, assez circonscrit sur les rencontres en ligne des étudiants qui se disaient hétérosexuels. Et c'était vraiment c'était vraiment né d'une enquête par questionnaire, finalement. Alors, moi, j'ai fait quelque chose de qualitatif, mais en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'enquête sur la sexualité, contexte de la sexualité en France. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'était une grande enquête nationale sur les comportements sexuels. Et mon directeur de mémoire, qui est devenu mon directeur de thèse, Michel Bozon, l'avait coordonné avec Nathalie Bajos. Et en fait, en 2007, l'enquête, c'était 2006, et 2007, ils sont un petit communiqué de presse en fait avec les résultats principaux, et en fait un des résultats qu'ils mettent en avant donc en 2007, c'était l'usage des sites de rencontres. C'était la première enquête en France qui posait la question, qui permettait d'étudier cette question-là. Et déjà en 2006, donc, c'était plus d'un 10% de la population française qui disait qu'ils avaient déjà utilisé un site de rencontre. Ce qui, à l'époque, était beaucoup, parce qu'en 2006, il y avait moins de la moitié des foyers français qui étaient connectés à Internet. Donc vraiment, en fait, c'était présenté comme un des résultats principaux. Donc mon mémoire est parti de là, en fait, parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de recherches. Je n'ai pas du tout fait une approche quantitative, j'ai fait des entretiens. Et c'était vraiment un peu le début de cette recherche. Donc parfois, on fait une mémoire, on pense qu'on l'a choisi comme ça, et après, 10 ans après, au plus, on se trouve toujours à travailler dessus, et c'est mon cas. Parce que donc le mémoire est devenu une thèse que j'ai donc effectivement soutenue en 2014. Et ensuite, je continue à suivre le sujet, donc maintenant à l'INED, et maintenant à la fois avec une perspective qualitative, mais aussi quantitative. Et donc, c'est un peu... Maintenant, vous inquiétez pas, je ne suis pas obsédée par les sites et les applications. Je fais autre chose aussi. Mais je continue un peu à suivre le sujet parce que je trouve ça, que c'est intéressant. Et du coup, c'est une partie de mon temps de recherche encore aujourd'hui que je consacre à ça. Et donc, le livre, ça résume à la fois les résultats de la thèse, mais qui était quand même très centré sur les sites de rencontres parce qu'à l'époque, c'était principalement des interfaces web. Ensuite, il y a eu la diffusion des applications. Donc, j'ai refait du terrain, j'ai refait des analyses. Et c'est ça qui a donné lieu ensuite donc, au livre qui réunit en fait les deux études. Donc cette recherche, elle part donc dès le début, et c'est toujours le cas en fait, d'une double approche des services de rencontre. À la fois, je regarde les sites et les applications comme un objet d'étude, c'est-à-dire je m'intéresse à leur spécificité, à leur originalité. Je me demande comment est-ce que ça change les choses, qu'est-ce que ça change à la sexualité, qu'est-ce que ça change au couple, est-ce que ça change qui on rencontre, comment on se rencontre, les représentations qu'on se fait de l'amour, etc. Donc c'est très centré sur cette nouvelle pratique pour essayer du coup de dessiner un peu les contours. Donc ça, c'est une approche, mais après j'en ai aussi une autre qui est plus de dire que ces sites et applications, ça, c'est un peu comme une loupe ou comme un miroir grossissant de d'autres évolutions. C'est finalement comme un terrain qui permet de poser des questions bien plus larges et plus générales sur les transformations de l'intime, la sexualité, les rapports de genre, etc. Et donc, avec cette deuxième approche, il n'y a pas forcément d'hypothèse de spécificité. C'est plutôt même le contraire. C'est de dire que les rencontres en ligne sont révélatrices d'évolution plus large, et du coup ça nous permet de mieux voir comment fonctionnent et les tensions aussi des relations intimes aujourd'hui. Et donc ce deuxième point de vue, c'est aussi du coup une discussion avec des collègues, avec les sociologues de l'intime, pour discuter, revisiter un peu les cadres et théories qui sont mobilisés pour rendre compte des pratiques intimes, et de voir est-ce que ça tient toujours face aux rencontres en ligne, ou est-ce que ça bouscule un peu nos cadres d'analyse. Donc, il y a une double approche, et j'ai aussi une double entrée qui était en fait beaucoup plus forte dans la thèse, mais qui est restée un peu dans le livre. C'est que je m'y suis intéressée principalement aux usages, mais j'ai aussi, et au début, vraiment eu un intérêt aussi pour la production de ces services. Donc, ça veut dire que j'ai fait une enquête avec différentes méthodes, où je me suis intéressée aux concepteurs, aux entreprises qui font ces produits, aux employés, et la manière dont ils pensent ces services, c'est la manière dont ils les mettent en forme et les mettent en marché, les stratégies de marketing qu'ils mettent en œuvre. Et du coup, au début, c'était vraiment une question un peu de dire, un peu naïve, ou juste dire, j'étais pas forcément une grande experte des différents sites et services qui existaient, donc je me suis dit, pouvoir comprendre ce que les gens font, il faut que je puisse dire qu'est-ce que les gens peuvent faire ou non. Et ça, ça impliquait d'avoir une bonne connaissance des sites qui existent. Donc ça a un peu commencé comme ça, mais c'est vraiment devenu un sujet d'étude à part entière, où j'ai fait des entretiens avec des concepteurs, un questionnaire auquel ils ont répondu, et aussi une analyse qualitative des interfaces. Donc, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais c'était vraiment une partie qui était assez importante dans mon travail, que je pense que ça l'a marqué aussi, parce que parfois, on regarde les interfaces, par exemple Tinder, et on dit, mais regardez notre société, regardez les relations intimes, comme si l'interface nous disait quelque chose sur les usages. En fait, lorsqu'on commence à interroger les gens qui font ces produits, on voit très bien que le produit c'est vraiment le reflet d'un milieu professionnel bien particulier, beaucoup plus que ce n'est l'anticipation des pratiques amoureuses des jeunes générations. Donc il faut faire la sociologie économique des produits pour comprendre les interfaces, et il ne faut pas trop faire des conclusions, des déductions à partir des interfaces pour comprendre comment les gens les utilisent. Donc j'ai vraiment fait une analyse de la production et de la réception, ce qui m'a bien permis de montrer qu'il y a vraiment une autonomie des deux. Il y a une autonomie de marché qui a ses propres logiques, qui anticipe un peu la demande, mais pas toujours. Et il y a une autonomie des usages qui n'est pas du tout déterminée par l'interface de la technique. Et il n'y a pas non plus de déterminisme un peu du marché derrière. Donc il faut vraiment étudier les deux à part et ça répond à des logiques différentes. Donc ça, c'est, voilà. Donc ça, c'était une première entrée. Évidemment, après, le centre de l'analyse, c'est quand même sur les usages. Je me suis centrée aussi sur les usages hétérosexuels. Donc ça veut dire que ça soit dans les analyses quantitatives ou qualitatives de personnes qui s'identifient comme hétérosexuelles et qui utilisent plutôt des produits qui sont à destination des hétéros. Et le choix de me centrer là-dessus, il y a des raisons un peu différentes. Mais une des choses qu'on peut dire, c'est que l'usage de services de rencontre, en fait, c'est rien de nouveau pour les gays et les lesbiennes, qui étaient des très grands utilisateurs et utilisatrices de petites annonces, de Minitel et d'autres services de rencontre téléphoniques. Aussi, au sein de la communauté gay, il y a toujours eu des lieux de rencontre spécifiquement dédiés aux rencontres, notamment sexuelles. Donc, quelque part, les sites et les applications, c'est un prolongement de ça et pas forcément une nouveauté. Alors que pour les hétérosexuels, et je vais revenir là-dessus, c'est une vraie nouveauté. Donc c'est plus nouveau, plus original pour les hétérosexuels. Et quelque part, en me centrant sur les hétéros, ça permet de ne pas écraser les expériences minoritaires parce qu'en fait, l'usage de ces services est différent. Et du coup, c'est un parti pris de regarder l'usage majoritaire, mais montrer à quel point il est aussi spécifique. Que ce n'est pas juste la norme, la majorité, il y a des normes très propres. Et du coup, quelque part, exotiser les hétéros pour une fois et de les regarder comme un groupe particulier, avec des normes particulières, et vraiment faire une analyse de l'hétérosexualité à travers ces produits. Donc ça, c'est donc double entrée. Ensuite, j'ai travaillé avec des méthodes différentes, donc en allant regarder un peu une perspective à la fois d'en haut et d'en bas, en articulant des enquêtes qualitatives et qualitatives. Donc, j'ai notamment mené une enquête par entretien avec des usagers de 18 à 68 ans qui sont issus des milieux sociaux relativement diversifiés. Et en fait, l'enquête a vraiment commencé par là. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui est important parce que, certes, maintenant, je manie les chiffres, je travaille à l'INED, donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est un institut de démographie. Mais j'ai vraiment commencé, en fait, d'un point de vue qualitatif et ça a bien vraiment marqué la recherche. Je raisonne dans une perspective assez compréhensive. Même avec les chiffres, j'ai un raisonnement souvent plus qualitatif que peut-être si j'avais suivi une autre formation. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc des entretiens pour comprendre comment les personnes viennent à cette pratique et leurs expériences, mais aussi donc des enquêtes, une perspective plus macro et quantitative, donc, notamment en utilisant des grandes enquêtes sur la population française, donc des enquêtes représentatives. Donc, c'est des enquêtes qui ont posé la question, demandé aux gens est-ce qu'ils avaient déjà utilisé tout ce type de service et qui permettent aussi de regarder les personnes qui se rencontrent par ce biais-là et donc de les caractériser. Et donc, c'est des enquêtes qui permettent de donner des taux d'usage représentatifs et pour ça, c'était très important pour moi. Donc, il y en a trois, en gros, en France qui permettent de le faire. C'est cette enquête sur la sexualité dont je parlais tout à l'heure de 2006. Il y a une étude sur la conjugalité de 2013 qui a été faite par l'INED. Et ensuite, plus récemment, il y a le baromètre santé par Santé publique France en 2016. Donc voilà, les enquêtes se font à intervalles réguliers, mais donc je vais vous présenter notamment des chiffres de l'enquête sur la conjugalité parce que j'ai travaillé dessus. Mais comme vous voyez, c'est des chiffres qui datent déjà un peu. Donc maintenant, on attend les nouvelles enquêtes pour pouvoir un peu actualiser les chiffres. Et puis une troisième source dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est en fait utiliser un matériau quantitatif un peu différent, qui n'est pas les grandes enquêtes, mais plutôt regarder les données qui sont générées par ces entreprises, donc des données de profil, mais aussi des données de contact. Et j'ai notamment travaillé avec Mythic en travaillant sur des bases anonymisées de leurs usagers pour regarder notamment qui contacte qui. Et en fait, ça a été très, très important pour moi pour regarder notamment des comportements de discrimination dans les rencontres amoureuses et sexuelles en regardant qui contacte qui, mais aussi qui ne contacte pas, qui se contacte pas, qui sont quelque part sélectionnés par qui et qui, en fait, vont essuyer des refus et vont avoir du mal à faire des rencontres. Donc, ça permet de travailler sur des inégalités de façon assez, assez originale. Donc, on pourra revenir là-dessus, mais je ne vais pas en parler plus dans la présentation. Donc, ça c'est juste pour vous donner un peu l'origine de la recherche, un peu un panorama, donc comment je l'ai pensé. Je vais présenter quelques résultats, notamment des enquêtes nationales, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire sur le taux d'usage, etc. Je vais juste revenir d'abord sur la question de la définition. Donc, qu'est-ce que j'étudie, comment je définis mon objet. Donc, c'est important parce que ça a des implications pour la suite. Donc, un site en application de rencontre, donc, c'est des services numériques qui sont spécifiquement et explicitement organisés en vue de la mise en relation de partenaires amoureux sexuels. Donc, c'est la définition que j'en donne. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que je n'étudie pas les rencontres en ligne en général. J'étudie vraiment l'usage de ces services spécialisés. Donc, tout ce qui est rencontre via Facebook, Instagram, Snapchat et tout ça, ça ne fait pas partie de mon objet d'étude. Et il y a vraiment une raison à ça à laquelle je vais revenir. Donc, c'est des services de rencontre. Donc, ici, vous avez l'interface web de Mythic et puis l'interface de Tinder. Donc, premier service de rencontre qui apparaît en France, en fait, c'est Mythic. Le premier site de rencontre dans le monde, on considère que c'est Match.com qui apparaît en 1995. Donc, c'est vraiment un des premiers sites web. Ici, vous avez Mythic et ça donne un peu une image, un peu une histoire de web où c'était son première interface. Et en fait, c'est intéressant de faire un peu l'histoire aussi de ces interfaces. Et c'est aussi une des choses que j'ai fait, qui était une des ambitions du livre de ma recherche, de quelque part faire l'histoire de cette pratique récente, mais aussi faire l'histoire longue. Parce que les services de rencontre, en fait, ils sont anciens. En tant que services commerciaux, ces sites et applications, ils ont comme, on va dire, prédécesseurs les agences matrimoniales, les petites annonces, le Minitel et d'autres interfaces encore. Et de fait, il y a vraiment une forte généalogie, en fait, entre ces produits. Et donc, juste pour vous donner un exemple, par exemple, le premier site Match.com, l'entrepreneur qui le crée, en fait, pour lui, il va faire des petites annonces. Donc, en fait, c'est quand il y a le web qui se développe dans les années 90, il commence à acheter tous les noms de domaines qui correspondent, en fait, aux rubriques qu'on trouvait dans les journaux pour les petites annonces. Donc, il achète voiture.com, logement.com, je sais pas, il y avait d'autres encore, et puis match.com pour rencontre. Donc, pour lui, c'était des petites annonces. Et en fait, donc ça montre bien qu'en fait il y a cette généalogie. On le voit aussi pour le Minitel Rose. Ceux qui ont été les fondateurs de Minitel Rose étaient aussi souvent des éditeurs de petites annonces. Et parmi les premiers sites français, il y avait des éditeurs de ces messageries conviviales. Donc il y a vraiment cette histoire, donc une généalogie qu'on trouve dans les acteurs qui les portent, mais aussi dans les interfaces et aussi les discours en fait qui les entourent. Donc ça, je ne vais pas trop entrer dans le sujet, mais il y a vraiment cette idée que certes, ce sont les sites et les applis, c'est des enfants de numérique, mais il y a vraiment cette histoire plus longue. Et une des choses qui m'a vraiment intéressée, c'est d'aller en fait remonter l'histoire, et notamment de remonter jusqu'au 19e lorsqu'apparaissent les premiers sites, les premières annonces et agences matrimoniales, et regarder comment en fait ces produits étaient reçus. Et ce qui était très frappant en faisant ce retour historique, c'est de voir notamment les similarités dans la réception, et la similarité notamment dans les discours très, très critiques qui sont aujourd'hui posés sur les sites et les appels, mais qu'on trouve déjà au 19e pour les autres produits. Donc ici, je vais vous juste donner un exemple. Donc c'est la Gazette du mariage. En fait, c'est un revue de petites annonces qui est en fait édité notamment par les agences matrimoniales, qui est édité donc le premier numéro en 1882. Et sur la première page, souvent ils expliquent, en fait, ils essayent un peu de justifier en fait ce mode de rencontre. Et donc ils disent, au nombre de causes principalement graves de la pénurie des mariages, nous n'hésitons pas à signaler en première ligne les difficultés, l'embarras qu'éprouvent la majeure partie des aspirants mariage de l'un et l'autre sexe, non seulement à chercher, mais à trouver, rencontrer, connaître cette personne unique entre toutes. Dans notre siècle fiévreux, aux plaisirs nombreux et variés, travaux incessants, affaires importantes et multiples sont menées de front à toute vapeur. Le temps, les circonstances favorables pour chercher et trouver une épouse font défaut à beaucoup. Et en fait, c'est juste un exemple, mais dans les écrits aujourd'hui sur les sites et les applications, il y a beaucoup cette idée qu'il y a un peu une crise de la rencontre et que notre époque très haut, il y a une accélération de temps, on n'arrive pas à se rencontrer, il y a vraiment une économie qui accélère tout et on est de plus en plus connecté, mais en même temps on est complètement déconnecté, on n'arrive pas à créer de lien. Ce discours-là, on le trouve déjà au 19e, mais du coup, ce n'est pas le capitalisme tardif qu'on va accuser, c'est l'industrialisation. Il y a beaucoup d'écrits, notamment sur le train, mais enfin, en fait, le pays est relié avec le chemin de fer et quand même, les gens n'arrivent pas à se rencontrer. Donc, très, très connecté, mais les gens n'arrivent toujours pas à créer des liens. Et je trouve, en fait, c'était vraiment important, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais que vraiment, souvent, il y a un peu un discours, une analyse, une critique des sites, des applications, vraiment comme cette idée d'une crise contemporaine de l'intime. Et en fait, cette crise, elle est permanente. Il y a une tension, une inquiétude sur la capacité des êtres humains à créer du lien, et notamment créer du lien intime, qu'on retrouve du coup dès le début. Ensuite, il y a d'autres, il y a le support qui apparaissent, donc je vais pas entrer dans le sujet, si ce n'est pour dire que là, en fait, il y a une vraie généalogie, mais la différence, c'est que ces services de rencontre-là, ils ne sont jamais entrés dans les mœurs. Donc là, j'ai sorti donc, des résultats d'une enquête qui a été faite par l'INED en 1985, où on demandait, le sondage de l'enquête était très resserré, c'était des personnes de 21 à 44 ans. On demandait s'ils avaient déjà posté ou répondu à une petite annonce ou fréquenté une agence, et c'était 2% à peu près qui disaient que c'était le cas, et c'était moins d'un couple sur 200 qui s'était formé par ce biais. Et le Minitel Rose et les services téléphoniques, c'était aussi relativement minoritaire, donc notamment chez les femmes et chez les hommes. C'était notamment des jeunes hommes qui allaient, mais qui disaient aussi aussitôt, c'était juste pour voir, c'était pas forcément pour faire des rencontres, c'est aussi de se connecter par curiosité. Donc c'est vraiment là où en fait il y a la rupture. C'est pas que en soi les services de rencontre soient nouveaux. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que pour la première fois, il y a une forme de banalisation, de recours à des intermédiaires spécialisés. Donc, pour la première fois, ça se diffuse. Donc, je vais donner quelques résultats des enquêtes. Donc, encore une fois, ce sont des enquêtes qui datent un peu. Donc, ce que ça permet de voir, surtout, ce sont des tendances qui vont sans doute sont vouées à se prolonger. Donc ici, vous avez le taux d'usage donc, de cette enquête de 2006 dont je vous parlais. Donc c'est la part de personnes qui disent qu'ils ont utilisé un site de rencontre par les groupes d'âge. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que c'est courant, et notamment courant chez les jeunes, et donc dès 2006. Et c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, parfois on dit que c'est les applications qui ont un peu converti les jeunes à ces services. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. En 2006, Mythic, c'était hyper branché et il y avait beaucoup, beaucoup de 18, 19, 20 ans. On l'oublie et maintenant Mythic est considéré un peu ringard, c'est un peu plus pour les gens plus âgés. Mais au début, c'était vraiment considéré comme un service de jeunes, en fait. Et donc ça, c'est les taux d'usage en 2006. Et là, vous avez le taux d'usage en 2013. Et vous voyez que l'usage s'est diffusé dans tous les groupes d'âge. Et en fait, aujourd'hui, si on ajoutait la barre qu'on peut pas encore faire parce qu'on n'a pas l'enquête, mais la barre de 2020, très certainement, on aurait eu une évolution. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le taux d'usage de personnes qui disent avoir utilisé au moins une fois ce site, ça sert autour d'une personne sur 5 ou une personne sur 4. Donc, Ce que vous voyez aussi, c'est qu'effectivement, beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce que ben, c'est un effet d'âge, un effet de génération. Un effet de génération parce que c'est des personnes qui ont grandi avec les pratiques numériques, pour qui c'est potentiellement plus simple, plus intuitif de s'inscrire sur ce genre de service. Mais c'est aussi un effet d'âge parce que c'est chez les jeunes qu'on a le plus de célibataires et donc des personnes potentiellement intéressées par faire des rencontres. Donc, je le disais, donc c'était à peu près 10% en 2006. L'enquête de 2013, c'est sur un champ d'âge un peu différent. Donc, vous aviez de 12% des femmes et 16% des hommes qui disaient qu'ils avaient déjà utilisé un site. Et chez les célibataires, c'était de 27%. Donc, c'est vraiment devenu une pratique courante assez rapidement. Et juste un autre élément, parce que je pense que c'est important, notamment pour la suite, de regarder aussi selon le sexe, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus aussi, avec cette idée qu'il y aurait beaucoup plus d'hommes sur les sites et les applications, parce que les hommes seraient beaucoup plus intéressés par faire des rencontres et les femmes beaucoup plus réticentes envers ce dispositif. Ce n'est pas tellement ce qu'on observe. Lorsqu'on regarde toute la population, on voit qu'effectivement, dans tous les groupes d'âge, les hommes, ou surtout en fait, chez les jeunes, en fait, les hommes sont plus nombreux à dire que oui, en fait, j'ai déjà utilisé un site ou une application de rencontre. Et cette différence est marquée surtout chez les jeunes. Sachant que chez les jeunes, les hommes restent célibataires plus longtemps. Il y a plus de célibataires chez les hommes, chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que les femmes se mettent en couple plus tôt. Donc, quelque part, les femmes entrent en couple et les hommes, ils restent célibataires un peu plus longtemps. Et ça, c'est important parce que si on regarde le taux d'usage sur toute la population, on voit cette différence-là. Mais si on regarde le taux d'usage chez les célibataires, donc chez les personnes qui, au moment de l'enquête, disaient qu'ils n'étaient pas en couple, en fait, déjà, on voit que le taux d'usage est beaucoup plus important, mais surtout que la différence entre les sexes disparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les femmes sont moins nombreuses sur les sites et les applications, ce n'est pas qu'elles sont moins intéressées par les rencontres, c'est qu'elles sont déjà en couple. Et lorsque les femmes sont célibataires, elles vont sur les sites et les applications au même titre que les hommes. Donc, il y a vraiment une question un peu, une question de démographie de la population célibataire à différents âges qui fait qu'il y a un peu des surreprésentations des jeunes hommes sur les applis, mais ça n'a rien à voir avec le fait que les filles ne sont pas intéressées. Ça tient plutôt à des parcours amoureux sexuels qui sont un peu différents. Et ça, c'est un point important, on reviendra sur ces questions de genre justement à la fin. Donc, un dernier graphique pour un peu voilà, donner quelques résultats de cette enquête sur lesquels j'ai travaillé, donc sur la conjugalité. Et ici, vous avez en fait le palmarès des lieux de rencontre des couples en France. Donc, c'est des couples qui se sont formés entre 2005 et 2013. Et ça permettait du coup à voir quelle est la place des sites de rencontre dans la formation des couples. Et donc, sur cette période-là, en fait, le site de rencontre est en cinquième position. Mais donc, ça veut dire que la plupart des couples se rencontraient sur le lieu de travail et d'études. Ensuite, arrivaient les soirées entre amis. Ensuite, les lieux publics et puis les cadres privés. Et en cinquième position, les sites de rencontre. Mais qui, du coup, étaient plus importants que les discothèques, les concerts. D'autres sites internet. Cadré familial, c'est très mal trouvé comme formulation parce que ça prête à confusion. Mais c'est des mariages de famille, des réunions de famille élargies qui, du coup, qui sont en fait assez importants pour rencontres à travers un cadre familial élargi. Et donc, voilà, aujourd'hui, très certainement, en fait, les sites ont grimpé dans le palmarès, mais c'est peu probable qu'ils ont détrôné les lieux d'études et de travail. Mais donc ça, c'est les nouvelles enquêtes qui permettront de le dire. Donc ça, c'est vraiment en fait cette diffusion. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'usage de ces services est vraiment devenu quelque chose de, même si un petit tabou potentiellement, mais c'est quand même un peu banalisé, et c'est devenu une expérience qui est presque constitutive en fait du célibat, c'est-à-dire de faire l'expérience de ces services. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et pour moi, c'est une vraie rupture dans l'organisation sociale des rencontres et dans l'histoire notamment de la formation des couples. Alors pourquoi c'est une rupture ? Parce que, et justement ça c'est vrai surtout en fait pour la population hétérosexuelle, c'est une rupture parce que traditionnellement les rencontres s'inscrivent dans la sociabilité ordinaire, c'est-à-dire qu'on se rencontre sur le travail, dans les lieux d'études, les lieux de sortie, lors des loisirs, etc. Et donc, il n'y a jamais eu de lieu spécifiquement dédié à la rencontre. Il y a des lieux qui sont privilégiés ou qui se prêtent bien pour des rencontres, mais ils ne sont pas forcément spécialisés, c'est-à-dire explicitement dédiés. Et c'est aussi lié aux imaginaires amoureux, parce qu'il y a cette idée que la rencontre doit être fortuite, donc il ne faut pas la provoquer, donc elle est censée vraiment arriver au coin de la rue. Et du coup, organiser les rencontres et la formation des couples, ça ne colle pas aux imaginaires de l'amour romantique. Donc ce que font les sites et les applications, et pour le coup pour la première fois, parce que c'est la première fois que ces lieux spécialisés se diffusent, c'est qu'ils participent à dissocier les lieux de sociabilité, les cadres de la sociabilité, des lieux de rencontre. Donc on peut dire qu'ils participent à désencastrer les rencontres d'autres sphères sociales et donc distinguer réseaux sociaux et réseaux sexuels. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'on sépare un peu les sphères et ça veut dire aussi du coup que les rencontres via ces dispositifs sont beaucoup plus discrètes parce que c'est à l'abri des regards de l'entourage. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça veut dire que ce sont des rencontres qui se déroulent en dehors et souvent à l'insu des cercles de sociabilité. Donc, on développe dans la livre cette idée d'une privatisation de la rencontre, c'est-à-dire qu'avec ces services, la rencontre devient potentiellement une affaire privée, dans le sens à la fois que la rencontre est séparée du groupe et protégée des regards. Donc un peu la question générale du livre, qu'est-ce que les sites et les applications changent aux rencontres? En fait, la réponse principale pour moi, c'est qu'il produit cette privatisation des rencontres amoureuses et sexuelles qui a beaucoup d'implications dans tout un tas de sphères. Donc c'est sur ça que je vais justement centrer le deuxième point, regarder un peu plus quelles sont ces implications. Donc, en fait, un premier point qui est important, c'est que pour moi, c'est évident que cette dissociation, cette privatisation, c'est un facteur clé du succès de ces services. Alors, ce n'est pas le seul, ça c'est sûr, parce que pour moi, il y a vraiment une double explication du succès de ces services. À la fois, il y a des facteurs structurels qui sont vraiment des évolutions de long terme, des facteurs sociodémographiques, et notamment une évolution des parcours amoureux et sexuels, qui est une explication fondamentale, en fait, pour comprendre pourquoi il y a eu ce succès. Mais il y a aussi la spécificité de ce lieu de rencontre qui est la privatisation et les deux travaillent ensemble. Donc c'est quelque chose qui explique les choses chez les jeunes et chez les moins jeunes, mais pour des raisons un peu différentes. Un premier élément de contexte qui est vraiment très important, c'est en fait, il y a vraiment eu une évolution, du coup, qui est une évolution de longue durée, de développement de ce qu'on appelle en sociologie l'apparition d'une période de jeunesse sexuelle, en période préconjugale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait que progressivement, la mise en couple a été reportée et ça donne lieu à une période de célibat et un lieu, en fait, vraiment d'expérimentation dans la vie intime, amoureuse et sexuelle. Et c'est cette idée, du coup, que, en fait, il y a un temps pour expérimenter, il y a un temps pour vivre des choses, que l'enjeu n'est pas forcément la mise en couple tout de suite et on peut, du coup, vivre différents types d'histoires. C'est une possibilité, mais c'est aussi énorme. C'est quand même beaucoup, en fait, une idée qu'il faut profiter de sa jeunesse. C'est un peu comme une liberté en sursis, c'est-à-dire il faut profiter parce qu'à un moment donné, il va falloir se ranger. Et effectivement, lorsqu'on s'approche de la trentaine, on voit une aspiration à la conjugalité très forte, à des âges un tout petit peu différents pour les hommes et les femmes parce que les parcours ne sont pas les mêmes. Mais parfois, quand on parle des nouvelles normes sexuelles, il y a un peu cette idée qu'aujourd'hui, il y a un refus de l'engagement ou les gens font le choix du célibat, ce n'est pas du tout vrai. La norme conjugale est bien présente et à l'approche de la trentaine, la plupart des gens le sentent bien venir. Mais avant, c'est vrai que c'est possible de vivre autre chose et d'expérimenter. Et c'est même devenu une norme. Donc, on a quelque part un transfert des normes de découverte, d'apprentissage qui sont dans le sphère éducatif et qu'on retrouve dans le privé avec cette idée il faut que j'apprenne à me connaître, il faut que je sache ce que j'aime, il faut que je vive des choses pour ensuite bien vivre une relation de couple. Donc ça, c'est un contexte fondamental et il se trouve qu'en fait, les sites et les applications se prêtent très bien pour faire des rencontres parce qu'il y a une possibilité de, de rencontre de nouvelles personnes, mais surtout, en fait, c'est aussi un espace d'expérimentation à l'abri de regards. Donc, à un âge où à la fois il y a une forte incitation à expérimenter, mais en même temps il y a potentiellement un fort contrôle sur la sexualité de la part de la famille, mais surtout par les pères. C'est un lieu en fait qui permet de vivre des choses sans forcément devoir en rendre compte devant l'entourage. Donc il y a vraiment un attrait de la discrétion parce que les histoires sur Internet, c'est des histoires qui ne font pas d'histoire. Ça ne porte pas à conséquence. Et c'est quelque chose qui est très fort dans les entretiens que j'ai pu conduire. Donc ici, je vous donne quelques exemples pour incarner mon propos. Donc c'est Paul qui dit que c'est compliqué de draguer dans des soirées parce qu'il y a toujours des histoires, ça pose des problèmes. Un tel est sorti avec un tel n'a pas consort avec un tel, il y a des ex, en fait ça complique vachement les choses. Sur Internet, c'est plus simple de rencontrer de nouvelles personnes qui sont vraiment nouvelles, qui sont extérieures à tout ça, avec qui il ne risque pas d'avoir d'histoire. Et Alix dit à peu près la même chose quand elle dit que je ne vais pas sortir avec un mec de la fac parce que je n'ai pas envie de le voir tous les jours si ça se passe mal. Je n'ai pas envie de le voir avec une meuf si ça se passe mal. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires, en fait. C'est pour ça que je préfère vraiment que ça soit extérieur à tout. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, que ça permet... C'est plus simple de vivre des choses quand c'est un peu séparé. Et maintenant, évidemment, avec la banalisation des sites d'application, c'est même devenu une norme. C'est un peu... mieux vaut séparer les choses parce que c'est un peu le bordel si tout ça se mélange. Donc, c'est devenu une norme avec les sites et les applis aussi, mais ça explique aussi le succès de ces espaces. Chez les personnes plus âgées, en fait, on a un autre facteur qui entre en compte. Et bien évidemment, cette discrétion peut participer à expliquer le succès. Mais c'est aussi plus très, très concrètement qu'en fait, à 30 ans, mais a fortiori à 40 ans, à 50 ans, après une séparation, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à faire de nouvelles rencontres. Parce que la plupart des personnes dans son entourage sont déjà en couple, mais surtout parce qu'il y a une sociabilité qui est très différente. C'est moins de soirées, on rencontre moins de gens, on est plus dans des cadres plus privés. On fait des dîners avec des vieux copains et en fait on voit toujours les mêmes personnes et en fait on ne voit pas de nouvelles têtes. Aussi parce que tout ce qui est un peu lieu de sortie, qui brasse un peu des gens, c'est considéré comme des espaces jeunes. Et par exemple, aller dans un bar un vendredi soir, etc., ça peut être considéré comme quelque chose qui ça se fait plus. Ce n'est plus de son âge, en fait, de faire ça. Donc, il y a vraiment aussi ces choses-là qui changent. Donc, avec l'augmentation des ruptures et de remises en couple, on a des personnes, en fait, qui souhaitent revivre une relation. Et ça, on le voit très fortement. En fait, la norme conjugale est forte et l'idée de renouer avec la conjugalité après une rupture est forte. Mais un contexte social et de sociabilité qui est plus compliqué et qui fait, du coup, qu'on se tourne plus vers des sites et des applications. Donc, un attrait de la dissociation. Donc, juste un exemple donc, de Patricia qui dit « Quand vous prenez de l'âge, votre entourage est marié à des enfants, vous ne pouvez plus sortir. J'ai des amis autour de moi qui sont célibataires. Je n'ai pas d'amis autour de moi qui sont célibataires. Je n'ai que des couples mariés autour de moi. Donc, déjà, je ne peux pas sortir avec une copine célibataire, admettons une chambre des soirs, faire un resto. Le week-end, quand je n'ai pas les enfants, je ne peux pas faire ça parce qu'ils sont tous en couple. Je suis invitée par des amis, mais c'est toujours chez eux, avec les mêmes personnes, les mêmes couples. On ne peut pas faire de rencontre, c'est un cercle vicieux. » Donc ça, c'est... en fait, l'attrait est le même. Et quelque part, en fait, il y a une possibilité de court-circuiter son entourage pour accéder à de nouvelles partenaires. Et en fait, c'est un attrait qu'on trouve chez les jeunes et chez les moins jeunes. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment des évolutions des pratiques et des comportements amoureux et sexuels derrière. C'est une évolution plus longue d'une complexification des parcours, mais qui crée des effets et des situations un peu différents. Et les sites, les applications ont un entrée justement parce qu'ils facilitent les rencontres à différents âges de la vie. Donc, ça explique le succès. Et ensuite, ça a aussi des implications, et notamment sur la sexualité. Et un des changements importants, c'est que ça facilite l'accès à la sexualité, et notamment à la sexualité non conjugale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, privatisation ? En fait, ça veut dire qu'il y a un contrôle extérieur moindre. Et cette contrôle extérieur moindre fait que, concrètement, deux choses qui sont très nettes et qui sont très claires avec les rencontres en ligne. Ça fait qu'en fait, ce sont des rencontres qui deviennent rapidement sexuelles et c'est des rencontres qui sont souvent de courte durée. Donc ça, c'est aussi c'est quelque chose qui a été, je pense, assez largement débattu, et notamment dans la presse. Il y a cette idée, effectivement, que que ce sont des espaces surtout pour du sexe et qu'il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de long terme qui émerge de là. C'est pas faux, même si c'est pas toute la vérité. Mais il y a aussi cette idée du coup que ce qui aurait changé, c'est vraiment nos normes. C'est-à-dire dans une nouvelle culture sexuelle, il y aurait eu une révolution sexuelle 2.0, des nouvelles... vraiment une transformation des mœurs, quelque part, qui aurait donné lieu, en fait, à ces pratiques sur Internet, donc une forme de désinhibition un peu généralisée sur Internet. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. En fait, ce n'est pas principalement un changement des normes. En premier lieu, c'est vraiment un changement très concret des conditions de rencontre. Ce n'est pas du tout la même chose d'initier des relations intimes avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne va pas revoir. Et ça change très concrètement les choses. Donc sur le premier point, le fait que ça devient rapidement sexuel, on le voit très, très clairement avec les enquêtes. Donc ça vaut pour les rencontres éphémères, ça vaut aussi pour la formation des couples. Donc ce que vous avez ici, c'est l'enquête de 2013. Et c'est les couples qui se sont formés entre 2005 et 2013. Et c'est, la temporalité, le processus d'entrée en relation selon le lieu de rencontre. Plus précisément, en fait, c'est le temps entre le premier contact et le premier rapport sexuel. Donc on peut regarder un peu dans quelle mesure les différents couples sont devenus rapidement sexuels ou dans quelle mesure ça a mis un peu de temps avant que ça devienne physique. Et donc, la manière dont ça se lit, si vous regardez donc, les couples qui se sont formés sur un site de rencontre, si vous regardez la barre noire, ça montre que du coup, à 30% de ces couples, ces relations sont devenues sexuelles dans la semaine suivant la première rencontre. En gros, le premier passage à l'acte, c'était dans la semaine de contact. Et pour la moitié de ces couples-là, les premiers rapports sexuels sont intervenus dans le mois suivant le premier contact. Si vous prenez les couples qui se rencontrent sur le lieu de travail, vous voyez la barre noire, en fait, c'est 8% des gens qui disent que le premier rapport sexuel est intervenu dans la semaine suivant le contact. En fait, c'est très rare. Souvent, ça prend beaucoup plus de temps, pour des raisons assez intuitives, parce que ce n'est pas un lieu consacré à la rencontre, et donc il y a beaucoup plus de tâtonnements, ça prend plus de temps, alors que sur les sites, c'est beaucoup plus rapide. Et ce que ce graphique permet de montrer, c'est que ce n'est pas Internet qui change les choses. Ce n'est pas une désinhibition liée à Internet. Parce que si vous regardez les couples qui se forment via d'autres espaces, comme Facebook, par exemple, ils ont une temporalité qui est très proche des soirées entre amis. Parce que finalement, Facebook, c'est quoi? C'est un réseau d'amis. Donc, ça a des logiques sociales communes. En revanche, les sites et les petites annonces, les agences et le Minitel, ils ont une temporalité qui est très similaire. Et donc, c'est vraiment, en fait, le recours à un service spécialisé fait qu'il y a une accélération du processus de séduction et un passage à l'acte, une sexualisation qui est beaucoup plus rapide. Donc ça abrège le temps de séduction. Et c'est quelque chose que les interviewés de tout âge disent très clairement. Donc ici, c'est Corentin qui dit que la différence entre le réel et Tinder, c'est qu'en général, dans le réel, une fille que tu côtoies dans ton milieu social, tu vas attendre, vous allez prendre du temps, ça va commencer par une cigarette, puis doucement, vous parlez, on parle, vous vous achetez sur Facebook, et c'est éventuellement au bout de 2 semaines que tu te lances. Sur Tinder, le temps, c'est une autre paradigme, c'est une autre dimension, ça va plus vite. Donc, il y a un peu cette idée qu'on brûle des étapes, un peu. Donc, la temporalité en soi n'est pas forcément intéressante. Pourquoi elle est intéressante ici? C'est parce que, en fait, la temporalité est indicatrice de la signification qu'on donne à la sexualité et qu'il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Et donc là, on peut l'inscrire dans une évolution plus large où, si on remonte aux années 50, la sexualité est une conséquence de l'union. Ensuite, dans les années 70, la sexualité, c'est une manière d'instituer l'union. Ça correspond, c'est premier rapport sexuel, c'est un peu l'entrée en couple. Aujourd'hui, la sexualité en arrive en amont, en fait. Elle ne prédit rien, en fait. Elle n'est pas l'institution du couple. C'est l'ouverture d'un possible. Ça peut devenir une relation conjugale, mais pas forcément. Donc, c'est une forme de première manière de se connaître. Donc, il y a un avancement des rapports dans le processus. Et pour le coup, la signification accordée à la sexualité n'est pas du tout la même. Et quelque part, elle occupe une place moins importante dans la formation du lien conjugal. Et comme ça, on a une dissociation croissante, fortement prolongée par les sites et les applications, entre sexualité et conjugalité. Donc une autre chose, un autre point donc, avec ce changement des scénarios sexuels, c'est que les rencontres en ligne sont souvent aussi de courte durée. Donc ça, c'est aussi... Donc il y a des couples qui se forment, je l'ai montré tout à l'heure, mais la majeure partie des relations qui sont nouées sont plutôt plus éphémères. Donc ce sont des espaces où il y a beaucoup de rencontres bien sexuelles, mais seule une minorité s'inscrivent dans la durée. Donc ça, les enquêtes le montrent aussi plutôt bien. Donc ici, vous avez une enquête plus récente, donc c'est le baromètre santé. Et pour chaque groupe d'âge, c'est la part de personnes qui disent qu'ils ont rencontré un partenaire sexuel sur Internet. Donc vous voyez que dans chez les vingtenaires, le fait d'avoir connu un partenaire sexuel en ligne est très, très courant. Mais c'est juste une minorité parmi ces personnes-là qui ont formé un couple avec un partenaire connu en ligne. Alors, il y a différentes choses qui l'expliquent. En fait, la temporalité, en fait, est en elle-même une explication, parce que dès que la sexualité arrive très vite, bon, il y a des relations sexuelles quelque part, juste de fait, en fait, même, ce n'était pas forcément intentionnel, mais en fait, la sexualité arrive avant qu'on a statué sur l'avenir de la relation. Donc, quelque part, c'est même une expérience constitutive par cette accélération, en fait, des choses. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, et c'est là que j'insiste encore, sur la privatisation. On s'engage plus facilement, on va dire, on entre plus rapidement dans des relations sexuelles avec des partenaires qu'on ne connaît pas par ailleurs, et on se désengage vis-à-vis d'eux beaucoup plus facilement. Parce que, disons qu'on n'a pas à rendre compte, en fait, ni devant son entourage, mais aussi beaucoup moins envers son partenaire. Il y a moins de conséquences. Et c'est un point qui est important. Donc, c'est des personnes qu'on n'a pas besoin de les revoir si on ne le souhaite pas. Et c'est très différent. Donc, je prends souvent l'exemple des rencontres sur le lieu de travail ou d'études, mais effectivement, c'est des personnes qu'on va être amené à côtoyer. Et potentiellement, il y a aussi une interconnaissance, donc aussi des personnes qui connaissent les deux personnes et que ça peut poser problème. Et parfois, on hésite deux fois avant de donner un caractère sexuel à une relation parce que ça a des conséquences. Donc, ce sont des rencontres plus discrètes. Donc ça, c'est un élément aussi donc c'est vrai que ça facilite la sexualité, notamment la sexualité non conjugale. Et comme vous le soupçonnez sans doute, c'est particulièrement vrai pour certaines populations. Les populations dont la sexualité est stigmatisée, les populations dont les relations sexuelles peuvent porter à conséquence tout particulièrement, c'est-à-dire que ça peut être stigmatisé. Donc c'est le cas des personnes de minorité sexuelle, mais c'est tout simplement le cas aussi en premier lieu pour les femmes, dont les comportements sexuels continuent à être jugés différemment des hommes, avec un double standard d'estex qui a bougé, mais qui est quand même persistant. C'est-à-dire que les hommes peuvent avoir un renouvellement de partenaires, on peut enchaîner des histoires et que ça peut être valorisé, alors que c'est toujours beaucoup plus compliqué pour les femmes et que l'entourage peut assez rapidement avoir un avis sur le comportement sexuel d'une femme s'il y a trop de partenaires ou trop de rencontres. Et c'est quelque chose aussi du coup qui ressort dans les entretiens, que les espaces en ligne sont des espaces où on peut vivre des choses et que ça peut être plus simple de vivre les choses, justement parce qu'il n'y a pas le regard de pair et du coup l'anticipation de la stigmatisation. Comme Virginie qui dit, donc, autant j'assume complètement mon mode de vie quand des périodes où je n'ai pas envie de sérieux, autant je sais pertinemment l'image que ça peut renvoyer chez certains, et je sais pertinemment que ça peut être facilement être taxé de salope ou je ne sais pas quoi, donc c'est une image que tu n'as pas envie de renvoyer. Donc ça, ce sont des éléments du coup qui déplacent un peu le regard. C'est-à-dire que tous les changements dans la sexualité qui proviennent, ce n'est pas un changement de normes, qui est en lecture assez courante et assez rapide en fait, des évolutions de l'intime. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un changement de nos systèmes de valeurs, de notre éducation, et ça fait qu'on a des pratiques sexuelles différentes. Parfois, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des changements de contexte qui font que nous vivons des relations différentes, des choses qui facilitent la sexualité. Et ensuite, bien évidemment, il y a un changement des normes, mais ce n'est pas forcément en fait, la force qui impulse le mouvement. Ça peut aussi être un changement de normes qui accompagne des pratiques qui sont en train de se mettre en place. Donc très concrètement, c'est un cadre de rencontre qui change, qui permet une privatisation qui facilite l'accès à la sexualité. Et donc très concrètement, d'abord, pour les personnes dont la sexualité peut être stigmatisée. Et c'est sur ce dernier point en fait que j'aimerais insister maintenant, donc pour finir, pour creuser un peu cette question des rapports de genre et des champs de possibles en matière de sexualité. Donc un premier point qui est très important, c'est que quand je dis que ça facilite l'accès à la sexualité, quand je dis que c'est un espace où le contrôle social extérieur est moindre et que du coup ça ouvre un peu les marges de manœuvre, ça ne veut pas du tout dire en fait qu'il y a une forme de relâchement des comportements. Et c'est important de le dire parce que ça, c'est une autre image un peu schématique ou stéréotypée de l'espace Internet, un peu comme un espace qui fait sauter les barrières sociales, qui fait sauter les barrières géographiques, tout est possible, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, sur la question des barrières sociales et géographiques, j'en ai pas parlé, mais vous vous en doutez bien, en fait, l'homogamie ne disparaît pas sur Internet. Il y a des logiques de classe et de discrimination qui sont bien présentes. De la même manière, ça ne fait pas sauter la morale sexuelle, une norme sexuelle. Ce que ça fait, en fait, c'est, pour moi, c'est vraiment un déplacement des instances de contrôle de la sexualité. C'est-à-dire que, et là, encore une fois, on peut situer en fait, les sites et les applications dans un mouvement historique plus large, où à la fin de, disons, les dernières 50 années, depuis le milieu du 20e siècle, on a cette évolution où le contrôle de la sexualité passe d'un contrôle qui était avant vertical à quelque chose de plus horizontal. Avant, c'était des institutions traditionnelles, l'Église, les parents, des institutions de morale bien instituées avec un contrôle bien en surplomb, un peu de chape. Et que ça a beaucoup évolué, notamment dans les années 70, vers quelque chose de plus horizontal où la sexualité était plus contrôlée par les pères, donc par les amis. Et du coup, vraiment un changement de la régulation. Les sites et les applications, ils prolongent ce mouvement-là, parce qu'on passe donc on n'a plus un contrôle vraiment vertical, on a moins un contrôle à l'horizontal et beaucoup, beaucoup plus un contrôle intériorisé. Et c'est un point très important parce que c'est très clair, c'est très net quand on étudie les usagers des sites et des applications de rencontres, toutes les mesures qu'ils prennent elles et eux-mêmes pour réguler leur usage. Et ça donne une forme de réflexivité aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Et c'est vraiment des formes de censure, d'autocensure qui sont extrêmement fortes. Il y a beaucoup aussi de régulation de l'usage, le fait de se déconnecter, d'enlever l'application de son mobile uniquement pour se reconnecter potentiellement après. Mais du coup, une forme d'hygiène de vie où on dit on va prendre des pauses, on va un peu se calmer, on va s'écouter, etc. Donc il y a un peu parfois des périodes de détox en fait des applications et après on peut se remettre à l'usage. Et plus généralement aussi dans les interactions, évidemment éminemment beaucoup beaucoup de règles sociales sur la manière de se conduire, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, faire et pas faire. Donc ça veut dire qu'en fait on n'est pas, ça n'a aucun sens de dire qu'il y a une dérégulation de la sexualité. Sociologiquement, ça n'a pas de sens parce que les structures sociales ne sont pas extérieures à nous, elles sont intérieures à nous. La morale sexuelle est bien présente, mais c'est nous qui l'effectuons et c'est nous qui contrôlons notre propre comportement. Et c'est très fort sur ces applis. Ça vaut pour tout le monde, mais en fait, c'est là où l'aspect de genre sur lequel je vais juste revenir rapidement, c'est cette... C'est cette injonction collective à l'autocontrôle, à avoir une sexualité à juste mesure. Elle est particulièrement forte pour les femmes parce qu'il y a cette norme de ce que j'appelle la réserve féminine, et c'est sur ça que je vais finir. Donc, en fait, la norme de la réserve féminine, ça veut dire qu'il y a vraiment, en fait, des règles, évidemment, en ligne, il y a des codes de conduite, il y a des normes sociales qui sont fortes, et notamment des rôles sexués qui restent bien institués. La norme de la réserve féminine, en fait, c'est cette idée ce principe que les filles sont pas censées vouloir pareillement. Donc là, c'est quelque chose qui est assez bien établi, étudié en sociologie, qui a ce double standard des sexes où l'idée que les femmes ont moins de besoins sexuels et qu'elles ont une sexualité plus en retrait, qui est une représentation que les gens ont, en fait. Et il y a cette idée que les hommes, en fait, ils ont un libido beaucoup plus important. Mais ça devient très rapidement aussi une injonction, parce que ça veut dire que les femmes sont quand même censées être un peu sur le retrait. Et une femme qui montre une appétence sexuelle très forte, elle est hors norme. Donc, en fait, ce n'est pas uniquement une représentation, on va dire, abstraite. Ça se transforme très concrètement par des codes de conduite. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment un principe organisateur de l'hétérosexualité. Les femmes ne sont pas censées vouloir pareillement, c'est-à-dire exprimer un désir sexuel comparable aux garçons. Alors, sur le site et les applications, ça se concrétise très... de façon très nette, de différentes manières, c'est que les femmes soignent une image relativement pudique. Surtout, elles refusent souvent les avances explicites. C'est pas qu'on n'est pas forcément contre l'idée de vivre des choses plus éphémères, mais si, en fait, un homme contacte directement en disant « Tu fais quoi ce soir ? On baise ?» En fait, ça ne se passera pas du tout bien, en fait, parce qu'on ne dit pas... Ça veut dire, c'est considéré comme un manque de respect d'être, en fait, adressé dans des termes sexuels comme ça. On ne parle pas comme ça à une femme respectable. Donc, on refuse les avances explicites. Il y a aussi une forme de temporisation de rencontre, que ça n'aille pas trop vite. Et aussi, notamment, de laisser l'initiative à l'homme. C'est-à-dire de ne pas prendre le premier pas laisser venir l'autre. Juste pour donner un exemple, en fait, sur ce dernier, c'est extrêmement fort. Cette initiative masculine, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui contactent en premier les femmes. On le voit sur les applications, on le voit aussi très clairement sur Mythic, où dans les premiers contacts, 9 contacts sur 10 sont d'un homme. Et à peu près 7 réponses sur 10 sont d'une femme. Donc ça veut dire que la norme, c'est vraiment que lui écrit et elle répond. Et sur les applications, en fait, on voit quelque chose de semblable, c'est-à-dire que c'est souvent aux garçons qui doivent un peu amorcer la conversation et un peu voilà, faire en sorte que ça avance. Alors ça, c'est... comment est-ce qu'on peut l'expliquer sociologiquement ? En fait, la réserve féminine qui n'a pas du tout disparu sur Internet, mais qui est vraiment partie prenante et vraiment quelque chose qui organise les rencontres en ligne, il y a 3 choses qui sont un peu différentes, mais qui viennent un peu renforcer et soutenir cette norme. D'abord, la réserve féminine, c'est un enjeu de respectabilité des femmes, c'est-à-dire que le statut social des femmes se mesure toujours à leur réserve sexuelle. Une femme qui se montre une appétence sexuelle importante risque d'être stigmatisée et du coup risque une dévalorisation de son statut social. Donc à chaque fois, je vais juste prendre un exemple d'entretien pour un peu illustrer ou incarner un peu cette idée. Et cette idée de respectabilité, on peut penser, bon, ben ça c'est un vieux truc, en fait, on le voit plus, hein, en fait. Mais en fait, c'est ce qui est frappant, c'est dans des entretiens avec beaucoup de jeunes utilisatrices, cette idée quand même d'être quelqu'un de respectable revient beaucoup. Et notamment cette idée de coucher ou pas au premier soir, où on pourrait vraiment penser que c'est une norme de très vieille qui aurait disparu. Il y a beaucoup de jeunes femmes, en fait, qui s'imposent des codes de conduite, notamment à ne pas avoir un rapport sexuel le jour même. Donc, c'est Anaïs qui dit que ça donne une mauvaise image de moi d'aller directement chez le mec. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas boire une tasse de thé. Tu vois, quand tu vas vraiment chez la personne, ça veut dire que tu es prête à aller plus loin, à faire des choses, sauf dans certains cas. Mais surtout, pour une première rencontre, ça donne une image de toi assez dégradante, je trouve. Donc, c'est des choses qui persistent. Donc, le statut social des femmes se mesure toujours à une forme de mesure, de réserve en matière de sexualité. Il y a un deuxième point, en fait, qui est très important. C'est beaucoup plus, on peut dire prosaïquement, en fait, une manière pour les femmes de créer des marges de manœuvre. En fait, il y a un peu cette idée que je ne fais pas le premier pas parce qu'en fait, c'est une manière un peu de temporiser qu'on verra bien, qu'en fait, il faut qu'il se calme un peu. C'est pas parce que j'ai dit oui maintenant qu'ensuite, ça veut dire oui pour tout ce qu'on va faire après. Donc, on peut être un peu sur le retrait en début, c'est un peu de signaler à l'homme qu'on n'est pas du tout sûr que ça va aller jusqu'au lit. Ça va être quelque chose qui va être négocié au fur et à mesure. Et en fait, cette logique-là, qu'il faut être sur le retrait au début, ça rejoint un peu cette idée dit qu'une femme qui a dit oui au début, elle ne peut pas dire non après. Quelque part, qu'elle signe pour l'interaction sexuelle. Et c'est plus vraiment lié avec la première, en fait, point sur la respectabilité. En fait, si les femmes se montrent disponibles, elles risquent d'être perçues comme inconditionnellement disponibles. Elles perdent le droit de dire non. Et en fait, c'est très lié à la question de la respectabilité, parce que c'est un peu cette idée qu'une pute, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors qu'une femme respectable, il faut faire gaffe. Donc si on donne en fait une image de soi qui est un peu stigmatisée comme fille facile, on risque beaucoup plus d'être dans des situations où on n'arrive pas à refuser des rapports sexuels. Et du coup, à manier plus dans une image de respectabilité, on a d'autant plus de chances d'être respecté qu'on se conforme à l'image d'une femme respectable. Donc c'est vraiment lié à ça. Donc c'est lié à la respectabilité, mais c'est aussi lié évidemment à un point entre les lignes qui est la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que la réserve féminine, c'est aussi en fait une crainte qui peut être très consciente, mais parfois en plus entre les lignes, d'une crainte des agressions sexuelles. Et qu'il faut être un peu street smart parce qu'en fait, on ne veut pas quand même être dans des situations où en fait, on se trouve avec un homme qui peut être violent. Donc évidemment, c'est aussi lié à ça. Pourquoi en fait les espaces entre hommes, pourquoi les espaces gays sur Internet, il y a une sexualité qui est, et c'est vrai, est beaucoup plus directe, qui peut être négociée de façon assez explicite, etc. Mais déjà parce que c'est des hommes entre eux, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence sexuelle, il y a aussi des violences sexuelles chez les hommes gays, mais en fait, c'est aussi que ce sont des hommes socialisés comme des hommes, mais aussi des personnes, du coup, qui n'ont pas la même question à se poser sur la violence, en fait. Et je pense que c'est la comparaison permet de souligner cet enjeu que la sexualité est pour les femmes un lieu de violence potentielle. Et ce n'est pas forcément un niveau de conscience très, très aigu tout le temps, mais lorsque, pour une personne, la sexualité peut être la chose la plus chouette au monde et l'enfer total, ben, ça donne un rapport à la sexualité un peu plus en réserve. Et les hommes, en fait, ils ont moins en fait, cette socialisation au fait que la sexualité, ça peut être l'expérience la plus traumatisante. C'est-à-dire, ils n'ont pas à apprendre ou anticiper la sexualité comme violence, au même degré. Il y a des exceptions, évidemment. Donc, c'est une stratégie aussi pour créer des marges de manœuvre. Donc, comme elle dit Jennifer, en fait, on ne fait pas le premier pas parce qu'on laisse venir un peu comme ça. En fait, on peut négocier au pas par pas ce qui va se passer. Et puis, un troisième élément, et je vais finir là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est que la réserve féminine est vraiment la trame de la séduction hétérosexuelle. Et c'est toujours le cas. MeToo a peut-être un peu commencé à bousculer les choses, mais je pense à la marge. Il y a quand même cette idée assez forte que c'est aux garçons en fait, de prendre l'initiative, c'est aux femmes de temporiser. Et en fait, c'est non seulement des stratégies, etc. C'est ce jeu-là, ce jeu genré, est une source de plaisir, notamment pour les hommes. Les femmes qui ne sont pas directement accessibles, sont plus désirables. Et ça, on le voit aussi dans les entretiens. Donc ici, c'est Thomas qui dit qu'il voit vers les filles qui lui fuient. Et donc, il dit, si la personne vient directement vers moi, ça me gêne, et c'est trop direct. J'ai toujours aimé les filles qui me fuient. Alors moi, je cours derrière les filles qui me fuient. Je suis comme un gamin. C'est un défi, c'est un truc que je n'accepte pas. D'une certaine manière, ça doit revenir à ça. Donc, il y a cette idée aussi que c'est un peu comme les femmes mettent des barrières et en fait, c'est aux hommes de faire sauter les barrières. Ça aussi, ça peut sembler un peu vieux jeu, mais c'est quelque chose qui est assez fondamentalement inscrit dans la séduction hétérosexuelle, que c'est vraiment un jeu de chaud et de froid et que les rôles sexués sont assez institués sur le sujet. Et comme souvent, en fait, c'est lorsqu'on reverse tout qu'on voit à quel point c'est vraiment une norme. Parce que ce qui est très clair, c'est que lorsque, évidemment, ça arrive, les filles prennent les devants et prennent l'initiative. En fait, on pourrait penser que les garçons sont contents, ils se disent enfin quelqu'un qui prend l'initiative, mais souvent ce n'est pas du tout ça qui se passe, souvent ça déstabilise beaucoup, parce que ce sont des rôles à tenir, et lorsqu'on inverse les rôles, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que l'homme ne sait pas donner suite, parce qu'il ne sait pas, ou parce qu'en fait, il ne veut pas. Et donc un exemple de ça, c'est Eric qui raconte en fait une rencontre avec une femme. Il la décrit comme une barge et une bombe en même temps. Il est fasciné par cette femme et en même temps, il en a un peu peur. Et donc, je pose la question de ce rendez-vous, est-ce que c'était le jour même? Il dit, bah oui, ça s'est fait le soir même. Je me souviens parce que c'est elle qui avait proposé. Donc, on avait discuté et tout ça, super soirée. Et puis, en sortant de bar, elle dit, on va baiser? Ce qui m'a complètement déstabilisée. Donc du coup, j'ai fait « ouais, ouais », genre « ouais, ouais ». Et j'ai essayé, en fait, on n'a pas réussi, j'ai pas réussi à bander parce que j'étais trop impressionnée, en fait. Donc on n'a pas réussi, elle était sympa, elle m'a offert une seconde chance où ça a pu se passer. Mais en fait, et ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. En fait, il y a plusieurs hommes qui décrivent des situations, ils n'arrivent pas complètement à aller au bout parce que, en fait, c'est parce que les rôles sont inversés, ils ne savent plus quel rôle occuper et du coup, ils perdent la trame, en fait, ils perdent le scénario. Et ça veut dire que, et ça commence sur Internet, donc juste un dernier exemple, les femmes, en fait, qui contactent et qui prennent l'initiative sur Internet, souvent, c'est considéré comme des fakes ou des femmes, en fait, qui, il y a quelque chose de louche. Et souvent, les femmes qui vraiment prennent l'initiative, elles n'ont pas forcément de réponse. Et c'est ça qu'il dit Colin ici, il dit, bah, j'ai une expérience, si tu veux que je te la raconte, c'est vraiment un truc de barge. C'est un match avec une photo de Nana plutôt jolie, l'âge masqué, aucune info, j'étais intriguée parce que c'était mystérieux. Et au bout d'un moment, elle a coupé court à la discussion, elle m'a fait, tu cherches quoi sur Tinder? Là, je me suis dit, étrange. J'ai dit, rien de sérieux en particulier. Et elle m'a répondu, ah ben ça tombe bien, moi non plus, t'es dispo ce soir? Et je me suis dit, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si je l'aurais fait parce que ça aurait été trop bizarre. J'ai été profondément choquée par cette expérience, enfin choquée c'est un grand mot, mais j'ai halluciné. Je pense que c'est une légende, la nana qui fait « Salut, tu veux coucher ensemble, tu veux coucher avec moi ?» Dans l'autre sens, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont des vrais fous furieux, ça j'en doute pas. Et en fait, donc, il y a vraiment cette idée que, en fait, ce qui se passe là, c'est que cette femme, en fait, elle ne se comportait pas. Elle ne se comportait pas comme ce qu'on attend d'une femme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, où en fait, si jamais les femmes se montrent très disponibles sexuellement, elles auraient un succès fou. En fait, ça peut créer effectivement l'effet inverse, c'est-à-dire que elles sont considérées comme hors norme, donc il y a quelque chose de louche et ça devient une légende en fait. Et donc c'est quelque chose qui, ce sont des exemples qui sont pas anecdotiques parce que ça montre que en fait la réserve féminine est une condition du script hétérosexuel. Ce n'est pas une entrave à la sexualité. Ça permet la sexualité. C'est lorsque elle se montre justement un peu en retrait qu'il y a une sexualisation de la situation. Et c'est là où ça a le plus de chances d'aboutir. Mais si elle sort de cadre, si elle sort de son rôle, en fait, ça rend les choses plus compliquées parce que justement le jeu entre les deux se trouve un peu basculé. Donc ça, c'était juste, ce sont des exemples pour un peu évoquer les, continuer ou provoquer l'échange avec vous aussi. C'est-à-dire que il faut aller plus dans les nuances pour comprendre en fait les changements qui sont produits par les sites et les applications. Ce n'est pas une révolution sexuelle. Souvent, il y a des évolutions de long terme et certainement les sites, les applications, ils s'inscrivent dans ces évolutions-là, ils les prolongent activement. Et souvent, en fait, ce sont des évolutions qui s'inscrivent dans une tension où il y a des normes qui sont finalement très traditionnelles qui se retrouvent dans de nouvelles formes sur Internet. Donc pour moi, ce qui est vraiment en fait le nouveau, c'est qu'on a effectivement ce désencastrement des rencontres de la sociabilité ordinaire qui crée donc une forme de privatisation de la rencontre. Et que ça, c'est une vraie nouveauté. Et donc, c'est privé dans différents sens. C'est une privatisation dans le sens, comme je disais tout à l'heure, de cette insularité. On distingue réseaux sociaux et réseaux sexuels. C'est aussi une privatisation dans le sens des rencontres qui se déroulent à l'abri de regards. Mais c'est aussi privé dans le sens où, aujourd'hui, on peut faire des rencontres depuis le foyer. Donc, pour moi, c'est vraiment un point fondamental donc, qui change, qui a beaucoup d'implications, qui change notamment les scénarios sexuels, qui facilite l'accès à la sexualité. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une dérégulation, une désinhibition de la sexualité. C'est plutôt d'instaurer le gouvernement de soi comme un mode de régulation de la sexualité qui s'implique à tout le monde, aux femmes et aux hommes, mais avec cette particularité que c'est toujours davantage aux femmes de réguler l'hétérosexualité par une censure de leur propre désir et par une censure quelque part aussi du désir de l'autre, donc de temporiser les rencontres. Donc on se trouve dans une sexualité, on va dire, autorégulée, mais particulièrement régulée par cette norme de la réserve féminine qui vraiment conditionne la séduction hétérosexuelle et toujours aussi sur Internet. Donc, j'espère que c'était pas trop. J'ai évoqué plusieurs sujets, donc c'est peut-être un peu dense, mais on peut revenir sur différents points, évidemment, si vous voulez après. Ouais. Merci.